théâtre d'Edmond Morel.
Philippe Jones, les éditions La Différence publient deux volumes très, très importants. Ce sont les œuvres littéraires que vous avez écrites depuis 1944 pour ce qui concerne le premier des recueils consacrés à la poésie. Un deuxième recueil sur lequel auquel nous consacrerons un autre entretien est consacré, lui, à la nouvelle, à l'écriture de la nouvelle, qui est une des deux disciplines à laquelle vous vous livrez en tant qu'écrivain. Alors, en lisant le recueil des poèmes, puisque c'est sur celui-là que nous allons nous attarder, daté de 1944 à 2004, donc 60 ans de travail, d'écriture, de poésie, j'ai annoté l'un ou l'autre poème. Alors, vous voyez, dans mon exemplaire, j'ai annoté des titres, j'ai annoté une citation. J'ai essayé de trouver un fil conducteur à cet entretien qui aurait été aussi un fil d'Ariane à travers la poésie, puisque ce que vous proposez, c'est la chronologie, ce qui est un peu facile, je dirais, Philippe Jones. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir trouvé un fil d'Ariane, mais donc je vais essayer quelques pistes. Alors, la première concerne les dates, ou plutôt les périodes choisies. On voit que ce n'est pas d'année en année, mais il y a des groupements de périodes. Il y a 1944-1946, puis il y a des périodes de 3 ans, puis des périodes de 2 ans. Comment avez-vous, si c'est vous qui l'avez fait, reconstituer le partage en périodes chronologiques?
Mais ces périodes chronologiques ne sont pas identiques au point de vue du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des poèmes de jeunesse dans lesquels j'ai supprimé de recueils qui ont été publiés, mais qui me semblaient être un peu des poèmes qui étaient des poèmes de jeunesse, un peu lyriques, un peu, comment dirais-je, un peu jeunet aussi, hein, avec quelques phrases, quelques vers qui étaient aboutis, mais d'autres qui étaient plus aboutis par l'enchaînement de la jeunesse, la joie de vivre, etc., ou la tristesse traversée. Donc là, il y a des différences. Et alors, je crois que lorsqu'on arrive à une certaine, enfin, ce que j'estime une certaine maturité de ma poésie, là, j'ai repris d'une façon assez directe et honnête la plupart des choses qui ont été publiées, avec peut-être une césure qu'on peut constater. C'est une césure d'environ une dizaine d'années où je n'ai plus publié. Je n'ai pas cessé d'écrire totalement, mais je n'ai plus pu publier parce que le temps ne me permettait pas de le faire, que mon esprit était occupé par d'autres nécessités simplement vitales. D'ailleurs, gagner sa vie, avoir un métier stable, et puis des petits problèmes aussi intérieurs qui ont joué. Mais en fait, si vous voulez, entre 1955 et 1970, il y a une sorte d'obligation importante. J'enseigne à l'université, je dois faire des cours, je deviens conservateur en chef des musées, je dois donc me consacrer à ça, etc., etc. Donc là, des problèmes aussi peut-être sentimentaux qui ont joué à ce moment-là aussi. Donc il y a une sorte de laisser-aller poétique, ou plutôt de non-possession poétique.
Vous dites que vous n'avez pas publié, mais que vous avez continué à écrire. Est-ce que la poésie, dans ces moments à la fois intenses au niveau professionnel, mais peut-être aussi, d'après ce que vous laissez entendre, intenses au niveau émotionnel, oui, ou au niveau des remises en question, est-ce que la poésie ne vous était pas d'un certain secours ou d'une certaine nécessité à ce moment-là?
Mais elle l'était fragmentairement, si je puis dire. Je crois que la poésie... On peut écrire un poème dans sa vie, sans doute, et il y en a qui l'ont fait déjà, mais je crois que la poésie est une attitude permanente, une sensibilité qui doit s'exprimer. Et d'ailleurs, je ne vous cacherai pas, lorsque, au bout de quelques années, je n'ai pas conçu des poèmes d'une façon totale, je me suis senti très mal dans ma peau. Et c'est à cause de ce mal vivre, si je puis dire, alors que, bon, au point de vue social, au point de vue professionnel, j'étais au maximum de ma situation, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose et que j'étais mal dans ma peau parce que je n'écrivais plus. Et ça a été le point de départ de la reprise de mes poèmes. Je ne crois pas qu'il y ait eu une grande différence dans ce que j'écrivais avant et ce que j'ai écrit après. Peut-être tout de même, oui, si on a regardé ça attentivement. Mais je suis rentré en poésie, si je puis dire, avec un soupir de soulagement et j'ai retrouvé un équilibre qui était indispensable pour vivre, pour continuer, quoi.
Oui, c'est ça, la poésie est comme un souffle oui, de vie.
Tout à fait. C'est une respiration, la poésie.
Alors, si vous voulez bien, on va poursuivre la recherche d'une sorte de fil d'Ariane, et si on ne trouve pas, finalement, peu importe. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez sur les poèmes de jeunesse. Il y en a quelques-uns qui datent de 1944. Donc là, oui. Pardon pour la discrétion sur l'âge, mais en 1944, vous avez 20 ans, oui. Et vous écrivez des poèmes qui sont, enfin, ceux que vous avez retenus, qui sont déjà marqués par une série de thématiques que l'on retrouvera au fil des ans. Mais peut-être, je n'ai pas bien identifié les années de crise ou les années que vous venez d'évoquer. Il y a la mer, le naufrage, la mort. Et puis alors des images qui font penser à Verhaeren comme « Ville, tu surgis ce soir comme un point serré, tes angles s'obstinent ». Il y a comme ça des formulations qui sont fulgurantes et de violence. Et là, on voit la jeunesse, mais en même temps, qui déjà chante dans une maturité poétique, que d'ailleurs on retrouvera à la fin des poèmes qui sont recueillis ici. Est-ce que vous aviez conscience, comment venaient ces formulations-là? Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont ces phrases-là sont venues sous la plume du jeune homme de 20 ans, en 1944, rappelons-le?
Mais oui, mais justement, 1944 est une date tout de même importante, C'est presque la fin de la guerre. Et la rage, c'est évidemment la mort de mon père qui a été fusillé par les Allemands et qui est incontestablement l'un des moteurs, l'un des déclencheurs de mon écriture et de l'écriture en général. Enfin, de la nécessité d'écrire chez moi pour rejeter ce souvenir que je porte toujours, d'ailleurs.
Mais là, c'est en 1900. Passons à ce poème-là, parce que c'est un poème qui est d'une émotion extraordinaire, fulgurante, mais qui est écrit plus tard, qui est droit.
Ah oui.
Qui est droit. Et là, vous l'avez écrit plus tard. Je feuillette en même temps pour que celui qui nous écoute puisse lire. Je lis les derniers vers de ce poème droit qui est dédié, qui est consacré au martyr de votre père, d'une certaine manière. C'était le temps des grandes hontes où les prisons étaient le port d'hommes dressés, d'hommes vivants. Ils marchaient droit, ils marchent encore. Et là, c'est en 1949 que oui. Ce poème-là est paru. Mais il est écrit peut-être...
Oh, il a été écrit peut-être un ou deux ans avant. Mais j'ai eu beaucoup de peine à écrire ce poème. D'ailleurs, dans le premier recueil de poèmes que j'ai écrit, qui s'appelle « Le voyageur de la nuit », et qui a paru en 47, la dédicace était déjà faite à mon père. Mais c'était une reconnaissance de ce que je lui devais, etc., etc., et de sa disparition. Mais ça n'était pas formulé encore. Et ça m'a pris, enfin, il a été fusillé en 43, donc vous dites...
49.
Donc ça a pris... quelques années à s'écrire.
Est-ce qu'on pourrait penser, et là, je suis d'une autre génération que la vôtre, mais je ne peux pas vivre dans ma chair ce que vous avez vécu, non. Mais d'un autre côté, en lisant ce poème-là, le frisson vient au lecteur, quel que soit l'âge qu'il a, quel que soit ce qu'il a vécu, parce qu'il y a une forme d'universalité dans le fait que vous avez réussi à mettre des mots sur ce qui était indicible. Et c'est peut-être une constante de votre poésie.
Mais c'est gentil ce que vous dites, ça me touche. Mais je crois que c'est uniquement cela qui fait la poésie. C'est de mettre des mots sur une chose qui est indicible parce qu'elle est indicible, parce qu'elle est difficile à dire, d'une part, qu'il faut élaguer, qu'il faut choisir l'essentiel de l'émotion, qu'il faut pouvoir décanter tout cela. Et c'est ça qui est le problème majeur, je crois, dans l'expression artistique. C'est peut-être la décantation.
On trouve dans certains passages de vos poèmes, ou dans certains poèmes, une dimension picturale qui est plus intense dans certains cas que dans d'autres. Mm-hmm. Est-ce que, d'une certaine manière, le mariage que vous avez toujours fait entre l'art pictural et l'art poétique, par votre métier de conservateur, notamment aux Beaux-Arts, au musée des Beaux-Arts, est-ce que... Une des sources de l'inspiration de Philip Jones n'est pas de réconcilier Philip Jones avec Philip Robert Jones, qui est le nom que vous utilisez pour le travail, disons, dans l'art pictural, et Philip Jones est le nom que vous utilisez pour écrire. Est-ce que vous n'avez pas une sorte de tension constante entre comprendre ce qui fait la différence entre la poésie et la peinture ?
Oui, mais je crois, voyez-vous, que j'ai été élevé d'une façon merveilleuse, par un père et une mère qui étaient tous les deux très axés sur la peinture. Et quand j'étais gosse, j'allais avec mes parents, 4-5 ans, chez Giraud, par exemple, qui était la grande galerie à l'époque de tableaux. Et c'est une habitude totale de moi-même au niveau de la rencontre avec la peinture, d'amis que mes parents avaient comme Louis Rama ou des gens comme ceux-là, enfin, que j'ai connus quand j'avais 3-4 ans et que j'ai connus jusqu'à la fin de leur vie. Donc j'allais dans son atelier et je voyais comment il travaillait. Je ne sais pas dessiner, je suis totalement incapable de peindre. J'ai jamais essayé d'ailleurs, mais je suis fasciné depuis ma tendre enfance par le fait artistique, pictural, esthétique. Et par conséquent, je crois qu'il est assez normal que, ne pouvant pas m'exprimer par la peinture, j'essaie de trouver des équivalences au niveau verbal pour traduire ces images qui s'éveillent dans mon esprit.
Dans certains textes de ce recueil dont je rappelle le titre Poésie 1944-2004 paru à La Différence et qui couvre donc 60 ans de création poétique, vous avez dans certains textes évoqué explicitement certains artistes, oui. Certaines toiles aussi. Dans quelle mesure est-ce que l'écriture poétique, parfois en prose, mais toujours avec ce souffle poétique qui l'anime, dans quelle mesure est-ce que ça vous a rapproché de la compréhension d'un tableau ou d'un artiste ?
Ah, très fondamentalement. Oui. Je crois que j'ai écrit des textes sur différents artistes.
Il y a Brancusi, Hartung, Alechinski, Jacques Villon, à qui vous rendez hommage.
Mais là, ce sont des gens... Jacques Villon, je l'ai connu, par exemple. Mais enfin, il y en a que je n'ai pas connu. Brancusi, je ne l'ai jamais rencontré. Mais il est certain que c'est peut-être pour rendre hommage à leur œuvre que j'ai fait ça. Oh, j'aurais pu écrire une monographie sur Brancusi, parce que enfin, j'en ai écrit sur d'autres.
C'est ça, ce que vous faites aussi, parce qu'on oublie de dire, on sait que vous êtes nouvelliste et poète, mais vous êtes aussi un essayiste sur la peinture. C'est une autre écriture.
C'est une autre écriture. Une autre écriture, mais c'est une autre écriture qui est proche tout de même de mon écriture. De mon écriture, point. Non, je crois que pour en revenir à la question que vous posiez, il est certain que c'est une espèce de volonté de synthèse de l'œuvre de l'homme plutôt que de l'homme lui-même. puisque certains allaient Pierre Alechinski, je le connais bien, c'est un vieil ami. Et là, lorsque je suppose que j'ai écrit ce texte sur lui, je voyais non seulement son œuvre, mais je le voyais aussi lui. Donc là, il y avait une relation d'homme à homme, humaine, tactile, si je puis dire. Mais Brancusi, le seul tactile, c'était l'œuvre. Et là, je crois que c'est une sorte de recréation de ce que je comprends de lui et de ce que je vois de lui.
Est-ce que vous avez eu parfois le sentiment, imaginons un auditeur aveugle d'un de vos poèmes, est-ce que vous avez parfois eu le sentiment qu'en lisant ce que vous écrivez d'un tableau, il pourrait se le représenter dans l'ensemble de la dimension de l'émotion que peut créer une œuvre picturale ?
Mais je l'espère, parce qu'enfin, comme moi j'écris en fonction de l'œuvre, si je l'ai bien transmise, il devrait se recréer une image aussi à son tour.
Et vous-même, est-ce que vous avez le sentiment que l'écriture d'un poème sur une œuvre picturale vous apprend sur vous et sur l'œuvre ?
Oui, sûrement. Oui. Ça témoigne de l'amitié que je porte à l'œuvre. Enfin, comme je pourrais écrire un poème sur une femme ou sur un homme que j'aime bien, et je crois que ça devrait traduire les sentiments que j'éprouve vis-à-vis de la personne. Mais la même chose vis-à-vis de l'œuvre d'art. Et j'ai l'impression que l'œuvre d'art doit se sentir satisfaite qu'on pense à elle de cette manière-là.
Si vous le voulez bien, on va continuer un peu à aller picorer dans cette anthologie. Comme elle fait plus de 600 pages, il est impossible de donner une vision d'ensemble. Mais j'aimerais qu'on prenne une ou deux pistes comme celle-là, qui sont, l'une d'entre elles, me semble-t-il, une réflexion sur ce qu'est l'acte d'écrire. Vous dites dans un de vos poèmes « L'étincelle qui guide le poète vers une page blanche ». Et vous interrogez sur ce que cela peut représenter. Dites-nous, aujourd'hui, après avoir publié « Couleur d'un éveil », votre dernier recueil en date, dites-nous ce que pourrait être aujourd'hui cette étincelle qui conduit le poète, qui guide le poète, qui guide, ce n'est pas conduit, qui guide le poète vers une page blanche.
Mais je crois que c'est l'émotion. C'est l'émotion et la volonté de mieux traduire cette émotion. On peut réagir, on peut se mettre à rire ou à pleurer, et puis ça s'arrête là. Mais si on rit, on pleure parce que il y a une chose qui s'impose à vous, un contact, une émotion, eh bien, je crois qu'il s'agit d'essayer d'y répondre et de traduire ce que l'on sent. Et là, c'est le poète qui peut intervenir et qui essaie de traduire l'émotion qu'il a en se promenant dans la rue ou en voyant une image, en voyant un tableau, en voyant un coucher de soleil, enfin des choses aussi peu importantes que cela, ou des choses très importantes, comme le poème que vous citiez sur mon père. Ce sont des choses qui... des faits que l'on vit, des rencontres que l'on fait, des espoirs que l'on a et que l'on essaie dont on essaie de traduire l'ampleur, l'intensité, l'importance. Souvent, c'est dû à un choc émotionnel, bref, immédiat, qui se nourrit et qui fait qu'une image naît. Je vous dirais que généralement, quand ce genre de choses m'arrive, je note ce qui me traverse l'esprit. Et puis ça stagne, ça reste, et puis ça travaille de l'intérieur, hein, d'une façon totalement inconsciente. Et puis ça renaît, on retourne au morceau de papier sur lequel on a écrit l'image ou le fragment de texte. Et voilà, ça se transforme petit à petit en un texte que l'on considère soi-même comme un poème. Il n'est peut-être pas en réalité, mais enfin on le considère comme tel.
Vous avez, je cherchais dans mes notes, vous avez à un moment donné une image pour décrire l'écriture. Vous dites « L'écriture est soc ou charrue, elle arase le sol et se découvre un cours, adresse un paysage. C'est un peu ce que vous venez de me dire oui. sur le fait que vous écrivez, puis ça mûrit, ça, comme, oui. Comme une semaison qui...
Oui,
qui...
oui, c'est une, ça devient une moisson. Quoi.
Voilà, voilà.
Oui. Et alors, bon, je ne sais pas s'il faut la couper, il faut la laisser.
La moisson. Alors là, je ne sais pas, c'est l'image de la moisson qui évoque une autre très belle évocation que vous avez faite dans un de vos poèmes sur l'enfant. Alors, c'est peut-être parce qu'on parle de moisson, vous écrivez, et on est en 1968, donc c'est une année qui peut être un peu particulière. L'enfant, vous dites, sa taille est celle du blé mûr, et sur le champ de mes journées, il joue avec la joie que son âge éparpille. Alors, il n'y a pas plus belle évocation de ce qu'est en même temps l'enfance, l'été, le bonheur. On sent que vous étiez, en 1968, dans une espèce d'éblouissement de tout.
Oui. Oui, mais je crois que 68 est une période... Je ne sais pas si ce texte ne s'adresse pas à mon plus jeune fils. Je crois que oui. Qui doit être né vers 68, non ? Quel âge a-t-il ?
Qu'est-ce que ça fait ? En tout cas, dans l'anthologie, il n'est pas identifié. C'est l'enfant.
Oui, mais c'est lui.
C'est un texte en prose. Hein. C'est une oui. sorte de court texte en prose dans le chapitre intitulé « Gravé au vif ». Et
ah,
là,
oui,
on est en 1968 et la période est 1968-1970.
Oui. Mais « Gravé au vif » est justement le poème de ma renaissance, si je puis dire, à la poésie.
Oui, oui. Oui, donc là, nous sommes à la fin de cette période douloureuse dont vous parliez.
Oui, oui.
On passe de 58, extrait d'un bloc-notes.
Oui, et puis on arrive à 68.
Et c'est vrai qu'extrait d'un bloc-notes, on semble que ce sont des choses plus fugaces que vous avez écrites.
Oui, oui, oui. Là, il y a un blanc. Il y a un blanc. Il y a un blanc et le fils appartient à cette renaissance.
Donc le lecteur que je suis avait bien identifié.
Bien identifié.
Bien. Alors il y a
rien ne vous échappe.
Non, mais si. Mais bon, il faudrait le relire. Un autre élément que j'aimerais évoquer avec vous, parce que il m'a non pas surpris, mais il m'a intrigué d'une certaine manière. C'est la sensualité qu'il y a dans certains de vos poèmes, une sensualité, une sorte d'intensité charnelle dans l'évocation de la femme, dans l'évocation du corps. Est-ce que là, c'est une part de la vérité de Philip Jones aussi, et peut-être de son amour pour la peinture et pour cet art de représentation ?
Oui, la sensualité est une qualité, je dirais, que je reconnais volontiers. Non, je crois que là, il y a incontestablement... On peut être abstrait, et même dans l'abstraction, il y a une sensualité, bien sûr. Donc, la sensualité est un des fondements vitaux, bien sûr, aussi, de l'homme. Et je le reconnais volontiers. Pour moi, la sensualité est un moyen d'approche, de saisir, de comprendre.
Et vous l'avez traduit d'une manière très, très extraordinaire dans l'écriture. C'est là où vous avez trouvé une sorte d'harmonie entre la sensualité vécue, naturelle, et puis sa représentation. Un peu comme si vous étiez là, peut-être plus que dans d'autres, un peintre, comme Bonnard.
Ah oui, Bonnard, oui. Vous savez, dans mon bureau au musée, il y avait devant moi pendant des années, parce qu'il n'y en avait pas de musée d'art moderne jusqu'en 84, et c'est pour ça que j'ai travaillé pendant 25 ans au musée, pour avoir un musée d'art moderne, et il y avait un nu de Bonnard qui était superbe. Il était en face de mon nu. Et là, c'était vraiment un plaisir qui m'entretenait tous les jours de regarder ce tableau, même lorsque j'avais un visiteur un peu barbant, je regardais au-dessus de son épaule.
Ah, voilà. Le secret est dévoilé. Et vous en parlez magnifiquement bien. Il y a un texte d'ailleurs consacré, je pense, à ce tableau de Bonnard dans votre recueil qui est très beau. Alors, Philip Jones, on pourrait parler encore pendant des heures, mais...
C'est vous qui de parler ensemble.
Je vous remercie. Je voudrais terminer par revenir sur l'interrogation entre les rapports entre peinture et poésie en lisant un court extrait extrait d'un poème, extrait d'un plan à l'autre. Alors je vous le lis et puis alors je vous dirai la question que j'avais écrite ici pour vous la poser en conclusion, mais qui en fait devient parfaitement caduque après l'entretien, vous verrez pourquoi. Alors sur les rapports entre peinture et poésie, mettre fin à l'image, hausser le plan de vol, relâcher les voyelles qui agitent les phrases, vouloir être le vrai entre l'eau et l'oiseau, vivre pour devenir l'espace qui s'émeut. Est-ce que ce n'est pas là une manière de dire poésie, peinture et vie sont la même chose ?
Oui, je crois que je ne me souvenais pas du tout de ce que vous venez de me lire. Mais je crois que vous avez raison, c'est ça. C'est ça la poésie.
Il figure à la toute fin du recueil. Et à la toute fin du recueil, on trouve aussi une formulation. Les arpenteurs du soir dispersent les parfums. Et les arpenteurs du soir, je me suis rendu compte qu'à 60 ans d'intervalle, c'était pratiquement la même formulation que le voyageur de la nuit. Comme s'il y avait une courbe qui s'était faite naturellement.
Mais je ne peux pas vous dire le contraire puisque vous l'avez trouvé, mais vous me le révélez à moi-même. Non, c'est vrai. Je vous ai dit que je ne relisais pas mes œuvres. J'ai reçu ce livre qui m'a fait, ces deux livres qui m'ont fait grand plaisir pour mes 80 ans finalement, hein, que Jacques avait pensé à publier tout ça. Mais c'est pour moi le témoignage que je n'ai pas raté totalement ma vie, quoi. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est des choses vers lesquelles il m'arrive souvent de feuilleter ce livre et alors de tomber sur des passages, mais je n'avais pas le souvenir de celui que vous venez de me lire.
Alors, si vous voulez bien, je vais le relire et vous poser la question que j'aurais voulu vous poser avant de vous avoir rencontré, mais que je ne vous poserai plus, je la formulerai autrement. Donc, vous écriviez « Mettre fin à l'image, hausser le plan de vol, relâcher les voyelles qui agitent les phrases, vouloir être le vrai entre l'eau et l'oiseau, vivre pour devenir l'espace qui s'émeut. » Et ma question était, avez-vous trouvé la paix ? Et ma question que je vous poserai maintenant, c'est, j'espère que vous ne l'avez pas trouvée.
Non, je ne l'ai pas trouvée. Non, je ne l'ai pas trouvée. C'est pour ça que je continue d'écrire.
Voilà, vous avez répondu. Merci, Philippe Jones, pour cet entretien. Et surtout, merci pour nous donner le bonheur de relire votre poésie sur une période de temps qui va dans ce premier recueil de 1944 à 2004 aux éditions La Différence et que l'on peut prolonger ou entreprendre avec le dernier recueil paru aux éditions Le Cormier sous le beau titre Couleur d'un éveil. Philippe Jones, je vous remercie pour tout ce que vous nous avez donné et tout ce que nous attendons encore de vous.
Merci à vous de m'avoir si gentiment questionné, mais vous avez apporté les réponses.
Les rencontres d'Edmond Morel.